Nous poursuivons ce matin notre série sur les relations fraternelles dans l'Église au travers des exhortations du Nouveau Testament, les uns les autres. Ceci dit, à bien y réfléchir, il y a quelque chose de paradoxal à la poursuite de cette série pendant les circonstances que nous traversons. En effet, le confinement nous garde éloignés les uns des autres, et les seuls contacts que nous avons, à part quelques exceptions, sont des contacts téléphoniques ou des contacts comme lors de ce culte ce matin par visioconférence. Ainsi, cette réalité du moment donne à notre série un côté légèrement décalé. En effet, comment nous accueillir les uns les autres pendant ce temps de confinement? Comment nous exhorter les uns les autres? Comment nous supporter les uns les autres? Je ne cite ici que quelques-uns des sujets que nous avons déjà abordés dans cette série. C'est ainsi que ce matin, j'aimerais aborder avec vous la seule exhortation de la série qui n'en a rien à faire du confinement, qui n'est pas mise à mal par le confinement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle peut se vivre à distance et parce qu'elle se vit en réalité presque toujours à distance. Et je veux parler ici, vous le voyez déjà affiché à l'écran, de cette exhortation que nous trouvons dans l'épître de Jacques, « Priez les uns pour les autres ». Actuellement, nous ne pouvons pas nous retrouver physiquement à la combe des oiseaux pour nous réunir, pour échanger, pour faire des agapes, etc. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire en ce moment, et plusieurs de ces choses concernent les relations fraternelles. Mais il y a une chose qui demeure, une chose que nous pouvons toujours faire à distance, que nous pouvons faire quelles que soient les circonstances de notre vie, c'est prier les uns pour les autres. Et c'est donc, d'une certaine manière, une exhortation spéciale confinement que je vous propose de méditer ce matin. Notre texte se trouve dans l'épître de Jacques, donc, et je vous propose maintenant de lire ce texte avec son contexte. Je lis les versets 16 à 20. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort, et couvrira une multitude de péchés. Avant de parler de la prière les uns pour les autres à laquelle nous appelle le verset 16, j'aimerais dire quelques mots sur ce verset 16. Ce sera notre deuxième point. Je relis le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Que veut dire confesser ses péchés les uns aux autres? Et quel est le lien, s'il y en a un, entre la confession mutuelle des péchés et la prière les uns pour les autres? Les deux sont liés dans ce verset. Voilà deux des questions auxquelles il nous faut maintenant répondre. Notons avant de répondre à ces questions que Jacques vient de parler de péché dans le verset qui précède. Ou un malade qui a fait appel aux anciens qui l'ont oint d'huile et qui ont prié pour lui, est relevé, et s'il a commis des péchés, dit Jacques, il lui sera pardonné. Le « donc » de notre verset « confessez donc vos péchés » nous indique en conséquence que l'apôtre prolonge ici sa pensée. En fait, il semblerait qu'il passe du cas spécifique du malade qui a fait appel aux anciens à la généralité des relations fraternelles. Ceci dit, revenons à notre première question. Que veut dire « confessez donc vos péchés les uns aux autres » ? Écartons d'emblée la confession à un tiers, comme cela se pratique dans le catholicisme, avec le sacrement de pénitence et de réconciliation. Cette confession-là, à un prêtre en l'occurrence, est toujours à sens unique. Ce n'est jamais le prêtre qui se confesse aux fidèles, alors que la confession de notre texte est clairement à double sens. Certains ont vu ici la mention de la confession publique des péchés, une espèce de grand déballage qui consisterait à laver son linge sale en famille. Et je parle ici, bien évidemment, de la famille spirituelle. Est-ce de cela dont il s'agit? Personnellement, je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que, sauf cas rare et spécifique, la confession des péchés doit être toujours et uniquement faite à Dieu, et quand j'ai offensé quelqu'un, aussi à la personne offensée. Cependant, il est vrai qu'il existe des cas rares et spécifiques qui peuvent nécessiter une confession publique. Lesquels ? Généralement, quand la faute a été publique. Nous avons dans la Bible, par exemple, le cas des convertis à Éphèse. C'est dans Actes chapitre 19, versets 18 et 19. Ces convertis qui avaient pratiqué la sorcellerie au vu et au su de tous, et qui, après s'être convertis, ont confessé, dit le texte, et déclaré ce qu'ils avaient fait devant tous en brûlant leurs livres. Ceci dit, quand elle se pratique, la confession publique doit être maniée avec beaucoup de prudence, parce que les écueils sont nombreux. C'est une chose d'avouer son péché publiquement, c'en est une autre, par exemple, d'entrer dans tous les détails de la faute commise. Ainsi, le roi David, dans l'Ancien Testament, par exemple, s'est bien humilié ouvertement de ses crimes, puisqu'il adressait son psaume de repentance, le psaume 51, au chef des chantres. Mais Jules Marcel Nicole écrit dans son précis de doctrine, il se gardait d'y donner des détails scabreux sur sa conduite. Est-il question de confession publique des péchés dans notre verset? Rien ne l'indique, selon moi. Il me semble que ce dont il est question ici, c'est de la confession dans le cadre d'une offense, c'est-à-dire de l'offenseur à l'offensé. Notons que cette confession mutuelle des péchés à laquelle Jacques appelle ses lecteurs débouche aussi sur une guérison. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, dit Jacques. S'agit-il de guérison physique ou spirituelle ou les deux à la fois? Les avis sont partagés parmi les commentateurs. Personnellement, je pencherais sans exclure les autres possibilités pour une guérison de l'âme meurtrie par le péché et par ses conséquences. En d'autres mots, pour la guérison du pardon. Et pour parvenir à cette guérison de l'âme, dit Jacques, il faut la confession des péchés, qui implique bien évidemment le repentir, et il faut la prière réciproque. C'est un peu comme si Jacques disait « Ne laissez pas le péché dégénérer dans vos relations fraternelles. Ne le laissez pas parasiter votre communion fraternelle. N'attendez pas que cela débouche sur une situation telle qu'elle a été décrite dans les versets précédents, les versets 14 et 15. Il peut arriver en effet que parfois le péché amène la maladie. Au contraire, dit Jacques, réglez le péché entre vous dès que vous en êtes conscient, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, afin que vos cœurs soient guéris et la communion fraternelle rétablie. Voilà donc, à mon sens, le lien entre la confession des péchés et la prière les uns pour les autres dans notre texte. Et Jacques ajoute dans la suite du verset, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Pourquoi ? Parce qu'elle est ici l'agent, avec la confession, de la guérison de l'âme meurtrie par le péché commis par moi ou contre moi, ainsi que la guérison de la relation fraternelle. C'est donc en relation avec le péché, la repentance et le pardon que cette exhortation « prier les uns pour les autres » doit être comprise dans notre texte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ou plus précisément, est-ce que cela veut dire que notre prière les uns pour les autres doit uniquement se résumer à ce cas de figure ? Pour répondre à cette question, nous allons maintenant, dans un premier temps, répondre à la question « pourquoi ?» en un seul mot. Pourquoi prier les uns pour les autres ? Et puis, nous terminerons avec une autre question. Pourquoi, cette fois-ci en deux mots, pourquoi prier les uns pour les autres ? Pourquoi donc en un seul mot prier les uns pour les autres ? C'est notre troisième point. Nous parlons ici de motivation. Qu'est-ce qui me motive à prier pour mes frères et mes sœurs en Christ ? Qu'est-ce qui devrait me motiver à le faire ? Ces questions sont importantes. Elles sont importantes parce que nous constatons tous, je pense, la difficulté de l'exercice, la difficulté de prier pour nos frères et sœurs et de le faire dans la régularité. Pourquoi prier les uns pour les autres ? Premièrement, parce que Dieu nous le demande. Il nous le demande dans sa parole. C'est la première et bien évidemment la plus importante des raisons. Dieu nous le demande dans ce texte et nous pourrions en citer d'autres, comme par exemple Éphésiens 6, verset 18, où l'apôtre Paul dit « Priez pour tous les saints ». Prier pour tous les saints, c'est bien évidemment prier pour toutes celles et ceux qui appartiennent à Dieu. En priant les uns pour les autres, nous obéissons donc à Dieu et ainsi nous entrons dans les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Nous entrons dans la volonté de Dieu pour nous. Pourquoi prier les uns pour les autres ? Deuxièmement, parce que Dieu se plaît à accomplir sa volonté par nos prières. Il est vrai que Dieu n'a pas besoin de nous, ni de nos prières pour agir, pour accomplir sa volonté. Mais dans sa souveraineté, il a choisi de se servir de nos prières pour accomplir ses plans. Dieu a inclus nos prières et leur exaucement dans son plan souverain. Et quand nous comprenons cela, ça change fondamentalement notre conception de l'intercession, notre motivation à le faire et notre pratique. Nous comprenons l'utilité de la prière, nous comprenons aussi son efficacité. Non pas parce que la prière, ça marche, mais parce que le Dieu souverain a choisi d'accomplir ses plans, entre autres, par l'exaucement de nos prières, quand elles sont bien évidemment selon sa volonté. Pourquoi prier les uns pour les autres ? Troisièmement, parce que cela nous permet de manifester concrètement notre amour fraternel. La prière d'intercession est même sans doute la meilleure des expressions de l'amour fraternel que Dieu nous demande d'avoir les uns pour les autres. C'est certainement la meilleure parce que c'est en réalité la plus efficace. Souvenons-nous ici que la prière du juste c'est-à-dire de celui que Dieu a déclaré juste, a une grande efficacité, dit Jacques. Et que dit Jacques après avoir dit cela? Il cite l'exemple d'Élie. Élie qui était un homme de même nature que nous et qui fut néanmoins exaucé après avoir prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et puis après avoir prié à nouveau, la pluie tomba à nouveau. Ça, c'est de l'efficacité, n'est-ce pas? Non pas à la suite de la prière d'un surhomme, mais d'un homme, dit Jacques, de la même nature que nous, un homme comme nous. Mesurons-nous vraiment l'efficacité de la prière du juste quand elle est conforme à la volonté de Dieu? Pourquoi prier les uns pour les autres? Parce que cela nous permet de manifester concrètement et efficacement notre amour fraternel, cet amour que Dieu nous demande d'avoir les uns pour les autres. Si nous aimons quelqu'un, nous souhaitons bien évidemment le meilleur pour lui ou pour elle. C'est vrai qu'il y a bien des manières de montrer notre amour, notre affection fraternelle à quelqu'un. Mais la meilleure de toutes, même si elle n'est pas visible, c'est la prière d'intercession. Car c'est toujours le Seigneur qui peut faire advenir le meilleur dans la vie de quelqu'un. Prions les uns pour les autres. Mais que la prière ne nous empêche pas aussi d'agir les uns envers les autres. Agissons les uns pour les autres, mais que l'action ne nous empêche pas aussi de prier les uns pour les autres. J'aimerais profiter de l'occasion de ce message pour vous remercier pour toutes vos prières à mon égard. J'en suis profondément reconnaissant et j'en ai absolument besoin pour accomplir la tâche pastorale que le Seigneur m'a confiée. Merci donc de persévérer dans la prière pour moi, comme je m'attache à le faire pour chacun de vous. Un dernier mot pour finir cette troisième raison. La prière d'intercession n'est pas seulement le meilleur moyen de manifester notre amour fraternel, c'est aussi peut-être le meilleur moyen de renforcer notre amour fraternel, de consolider nos relations fraternelles. Alfred Kuhn écrit à ce sujet, cette petite phrase, « On aborde autrement quelqu'un pour qui on a prié. » On aborde autrement quelqu'un pour qui on a prié. C'est vrai. Je l'ai expérimenté à de nombreuses reprises et je suis persuadé que vous aussi. Pourquoi prier les uns pour les autres? Quatrièmement, parce que prier les uns pour les autres, c'est casser le cercle égocentrique dans lequel je m'enferme trop facilement. L'individualisme du chacun pour soi nous guette tous. Nous baignons dedans du matin au soir dans notre société. Et pour en sortir, il faut une prise de conscience. Et puis, il faut agir concrètement. La prière d'intercession nous permet cela. Elle nous fait lever nos yeux de notre nombril pour voir l'autre, pour regarder à l'autre et à son besoin, souvent bien plus important que le mien. J'aimerais maintenant terminer ce message en répondant à l'autre question. Pourquoi, en deux mots, prier les uns pour les autres? Trop souvent, me semble-t-il, nous gardons la prière d'intercession pour les coups durs, pour les situations d'urgence, pour les maladies graves, pour les deuils, etc. En fait, nous réservons la prière d'intercession aux situations de dernier recours. Il ne reste plus que la prière, disons-nous, ou pensons-nous? Est-ce là la bonne approche? Est-ce là la place que devrait avoir la prière les uns pour les autres dans notre vie? J'aimerais maintenant, en répondant à la question « Pourquoi ?» en deux mots, prier les uns pour les autres, montrer qu'en fait, les situations d'urgence ne devraient être qu'une petite partie de notre intercession. Juste un instant. Ne devrait être qu'une petite partie de notre intercession fraternelle, alors qu'en réalité, elles en constituent souvent l'essentiel. Sur quoi est-ce que je m'appuie pour dire cela? Je m'appuie sur le contenu des prières d'intercession que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Et je vous propose un très rapide survol qui va souligner ce que je viens de dire. Nous n'avons malheureusement pas le temps de lire tous les textes. Les références vont s'afficher, vous pourrez les lire chez vous plus tard si vous le souhaitez. Et je commence par la prière de Jésus dans Jean 17. Que demande-t-il à son Père pour les siens? Verset 11, de les garder en son nom, afin qu'ils soient un comme lui et le Père sont un. Verset 15, de les garder du malin. Verset 17, de les sanctifier par la vérité, par la parole. Verset 21, que tous soient un. Verset 24, qu'ils soient avec lui dans la gloire. Prenons ensuite Éphésiens 2, dans Éphésiens, Éphésiens 1, versets 16 à 18, et puis chapitre 3, versets 14 à 19. Éphésiens 1, verset 16, Paul commence par rendre grâce pour ses chrétiens, pour ses lecteurs. Verset 17, il demande que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation qui leur fasse connaître Jésus. Verset 18, il demande que Dieu illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous. Et puis au chapitre 3, verset 16, il demande qu'il soit puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Verset 17, que le Christ habite dans leur cœur. Verset 18 et 19, il demande qu'il soit enraciné et fondé dans l'amour pour être capable de comprendre et de connaître avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte qu'il soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Prenons encore Philippiens chapitre 1, versets 9 à 11. Que demande l'apôtre ici pour ses lecteurs? Il demande que leur amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, afin qu'ils sachent apprécier ce qui est important, afin qu'ils soient sincères et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ. Et puis un dernier exemple dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 9. Là, l'apôtre demande qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Que constatons-nous dans les textes que nous venons de survoler? Premièrement, nous constatons que ni Jésus ni l'apôtre Paul ne demandent par exemple la santé ou la guérison, la paix pour ceux qui traversent une épreuve, la consolation pour ceux qui sont dans le deuil, la sagesse pour ceux qui ont une décision importante à prendre. En d'autres mots, leur prière pour les autres, leur prière ne répond pas à l'urgence de certains besoins. Des besoins pour lesquels il est bien évidemment tout à fait légitime de prier. Nous constatons deuxièmement que ce qu'ils demandent, ce sont en réalité des bénédictions spirituelles. Ils demandent dans les grandes lignes la protection divine, la sanctification, l'unité, qu'ils connaissent mieux Jésus, qu'ils comprennent mieux le plan de Dieu, qu'ils comprennent mieux l'espérance qui s'attache à son appel, la glorieuse richesse de l'héritage céleste, qu'ils comprennent mieux la grandeur surabondante de sa puissance. Ils prient pour qu'ils soient puissamment fortifiés par l'Esprit, que le Christ habite dans leur cœur, qu'ils soient enracinés et fondés dans l'amour, qu'ils soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu et que leur amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, etc. Est-ce ainsi que nous prions les uns pour les autres? Ces exemples élargissent notre horizon et nous montrent qu'il y a tant de choses importantes à demander les uns pour les autres, et pas seulement la santé ou la paix, qui sont bien évidemment importants. Chers frères et sœurs, continuons à prier pour les besoins de chacun. Que ces besoins soient physiques, matériels, moraux, il est important de continuer à le faire. Mais prions surtout et avant tout pour les besoins spirituels des uns des autres, tels que nous venons de le voir. La prochaine fois que nous prierons, que je prierai, que vous prierez pour un frère ou une sœur dans l'Église, pourquoi ne pas demander à Dieu, pour lui ou pour elle, certaines des choses que nous avons vues dans ces versets? Finalement, est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que nous pouvons demander que cela? Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Que le Seigneur nous fasse la grâce de bien comprendre cette exhortation, qu'il nous aide chacun à progresser dans sa mise en pratique. Ainsi, nous nous aimerons les uns les autres. Ainsi, nous contribuerons au bien spirituel les uns des autres, parce que la prière du juste a une grande efficacité. Amen.